En cette seconde moitié du XVIIe siècle, qu'en est-il de la vie des couvents de religieux à Bayonne? On serait tenté de dire qu'il ne se passe rien de très remarquable, du moins pour les ordres anciens. Leurs couvents, pour certains d'entre eux, avaient été construits à la périphérie de la ville. Le plan prévu pour les fortifications les avait contraints à délocaliser et à reconstruire à l'intérieur des murs de la ville. C'est ce qui était arrivé aux Augustins, aux Carmes et aux Clarisses. Et puis toutes ces maisons religieuses vont participer de près à la vie chrétienne des Bayonnais. Les très nombreuses confréries que comptait la paroisse de la cathédrale, la seule de la ville, y avaient leur siège et beaucoup de fidèles choisissaient les cimetières de ces couvents pour leur dernière demeure, ce qui soulevait parfois des conflits avec le chapitre et le prêtre majeur au sujet des obsèques. Parmi les ordres masculins, nous l'avons dit, ce sont les Capucins qui vont s'implanter à Bayonne en 1615 grâce à la bienveillante complicité de la princesse Élisabeth, sœur du roi Louis XIII, au cours de son passage à Bayonne, en allant en Espagne pour y épouser le roi Philippe IV. La communauté des pères capucins était très active et très appréciée d'ailleurs par les Bayonnais. En 1659, ils songèrent à exaucer leur maison d'un double étage. Ils profitèrent de la présence à Saint-Sébastien du roi Philippe IV d'Espagne à l'occasion du mariage de sa fille Marie-Thérèse pour solliciter sa bienveillance et sa générosité. Ils lui envoyèrent un religieux connu pour son habileté, le père Hyacinthe de Saint-Julien. Celui-ci obtint du futur beau-père de Louis XIV une somme de 2000 ducats. Quelque temps après, le père Hyacinthe, intrépide mendiant, renouvela sa démarche, mais auprès de Marie-Thérèse, la jeune reine de France. Il ne put en tirer que 6 pistoles, et il se demande ingénument pourquoi une si petite somme. Était-ce parce que, à la cour de France, les caisses étaient vides, ou bien parce que la libéralité y était très musulée? Il ne sait pas. Une autre communauté de religieux pratiquant la spiritualité de saint François d'Assise vint également s'installer au diocèse, et cette fois en dehors de Bayonne. C'était l'époque où Cibourg et Saint-Jean-de-Luz étaient en conflit à la suite des accusations de sorcellerie. Un futur président du Parlement de Bordeaux leur conseilla, pour rétablir la concorde et la paix, de fonder et d'entretenir à frais communs un couvent de religieux. C'est ainsi qu'en 1611, des franciscains récollets s'installèrent dans l'île qui sépare Cibourg de Saint-Jean-de-Luz, et un couvent dédié à Notre-Dame de la Paix, ils furent donc élevés. Il faut signaler l'essai de fondation que firent les sœurs Clarisses de Bayonne à Jatsou, près du Staritz, à la chapelle de Saint-Joseph. Mais les difficultés rencontrées les découragèrent et au bout de 4 ans et 4 mois, elles réintégrèrent la communauté de Bayonne. Au cours du XVIIe siècle, Bayonne s'enrichit de 2 communautés féminines nouvelles, et même de 3, si l'on y ajoute les Ursulines, qui, en 1621, s'étaient implantées au Saint-Esprit, donc au diocèse de Dax, n'ayant pu s'établir à Bayonne comme elles l'auraient souhaité. Et c'est de là qu'en 1639, 3 religieuses allèrent à Saint-Jean-de-Luz et qu'elles y fondèrent une communauté d'Ursulines qui devait y demeurer jusqu'à la Révolution. En arrivant à Bayonne, Mgr Fouquet s'était rendu compte qu'il restait beaucoup à faire pour l'éducation des filles. Il connaissait de près l'ordre de la Visitation, fondé quelques années auparavant par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Après avoir obtenu l'accord de la municipalité, il réussit à faire venir à Bayonne un groupe de 7 visitandines qui s'établirent tout d'abord au Saint-Esprit, mais quelques jours après, elles vinrent habiter à Bayonne la maison d'Agourette, qui plus tard deviendra l'hôpital Saint-Léon, avant d'abriter au XXe siècle le musée basque actuel. La raison qui avait poussé Mgr Fouquet à faire appel aux visites andines n'avait pas, semble-t-il, disparu quelques années plus tard. Ayant à son tour constaté l'état d'ignorance où se trouvaient les petites filles pauvres, Mgr Dolce pensa faire venir à Bayonne les religieuses de l'Union, appelées aussi les dames de la foi. Le corps de ville était tout à fait d'accord, mais le chapitre, lui, trouvait que les fidèles bayonnais étaient déjà surchargés par l'entretien d'un très grand nombre de communautés de l'un et de l'autre sexe, eu égard, disait-il, à la petitesse de la ville. Malgré les obstacles, les dames de la foi réussirent à s'installer à Bayonne, où elles furent très estimées et firent, dit-on, un grand bien. Il faut souligner, me semble-t-il, le souci qu'ont eu les responsables civils et religieux de l'instruction et de l'éducation des filles, chose tout à fait nouvelle à l'époque, à côté du collège municipal qui fonctionnait plus ou moins bien pour les garçons. Enfin, nous ne pouvons pas clore ce chapitre de l'histoire du diocèse de Bayonne sans évoquer la littérature basque qui a fleuri à cette époque et qui fut essentiellement une littérature religieuse produite par des clercs ou des religieux. L'un d'eux, sans doute le plus illustre, fut Pedro de Achular, curé de Sade. Sa nomination à cette paroisse fut contestée parce qu'il était né à Urdax, en territoire espagnol. Le roi Henri IV dut intervenir pour rappeler qu'Urdax, comme Sade, était dans son royaume de Navarre et que ses sujets pouvaient recevoir un office dans n'importe quelle paroisse dépendant de sa couronne. Achular est connu pour avoir publié un ouvrage en basque désigné par le premier mot du titre « Gero », après, qui laisse d'ailleurs deviner le contenu et le pourquoi de l'ouvrage. Le but que se propose Achular est double. Tout d'abord un but religieux, bien sûr. Il entend montrer qu'il est dangereux de remettre à plus tard, Gero, la conversion au Seigneur. Et puis, un but patriotique. Il s'agit d'assurer la promotion de la langue basque. Il semble qu'Achular, qui répondit-il à une demande, ait voulu s'adresser à ses confrères prêtres plutôt qu'aux fidèles de la base. En plus du niveau de culture que suppose l'ouvrage, on peut y voir, semble-t-il, les préoccupations pastorales du clergé basque à cette époque. Ce sont les prédicateurs qu'Achular veut ainsi aider. D'ailleurs, la forme même et le style qu'il utilise sont ceux qu'affectionnent à cette époque les orateurs sacrés, avec de nombreuses citations, même d'auteurs latins profanes, dont Achular use et abuse. Un autre écrivain basque de talent en ce XVIIe siècle est Johannes de Echeberri, curé de Cibourg. Il fit paraître 3 livres de piété en vers. Le Manuel Devotionescoa, Manuel de dévotion, Noelac, les cantiques de Noël, et un ouvrage intitulé Elisarat erabil seco, pour aller à l'église. On ne s'étonnera pas que dans son manuel de dévotion, le curé de Cibourg se soit intéressé surtout aux marins pêcheurs. En particulier, sur 30 pages, il prévoit des prières pour chacune des phases de la pêche à la baleine, si bien qu'on chercherait en vain ailleurs des détails plus précis sur cette activité des pêcheurs basques. Il faut citer également à cette époque 2 écrivains qui n'étaient pas d'origine basque. Des étrangers donc, mais auxquels les Basques doivent un enrichissement de leur patrimoine culturel. Il s'agit tout d'abord de Sylvain Pouvreau. Originaire de Bourges, il s'était sans doute initié aux Basques au contact de Jean Duvergier de Oran, l'abbé de Saint-Cyran, dont il fut le secrétaire, avant d'entrer au service de Mgr Fouquet, lequel l'amena avec lui à Bayonne. Et Sylvain Pouvreau, devenu curé de Bidart, rédigeant en particulier un catéchisme en basque, celui que très probablement Mgr Dolce devait publier plus tard. Il écrivit et surtout traduisit en basque, avant de les publier, d'autres ouvrages de dévotion tels que Gidishtino aden Dottrina, traduction de l'instruction du chrétien de Richelieu. L'autre écrivain fut un franciscain nommé Étienne Mater, qui résida au couvent de Bayonne et qui publia en basque Dottrina Christiana, à la fois catéchisme et livre de dévotion. Nous arrêterons là l'histoire du diocèse de Bayonne au XVIIe siècle et nous aborderons la prochaine fois celle du XVIIIe siècle.